Peut-être un point, si tu peux nous éclairer sur dans le monde sunniste, sunnisme, il y a eu également différentes écoles coraniques, enfin des différentes écoles, pardon, pas
Juridique,
juridiques,
oui.
juridiques, pardon pour
Juridique,
l'erreur justement,
oui.
surtout pas coraniques,
Oui.
juridiques, donc aux quatre grandes écoles,
Oui.
Malikite, Hanbalite, etc. Moi j'avais compris que c'était un rapport plus ou moins distancié justement à une capacité de mettre de la raison
Tout à fait,
là-dedans,
oui.
versus des écoles, par exemple la Hanbalite, qui était plutôt littéraliste,
Tout à fait.
si je me rappelle bien, et qui du coup n'était pas si éloigné que ça du wahhabisme actuel, peut-être, enfin, même s'il y a des différences majeures que tu as évoquées. Est-ce que c'est, enfin voilà, pardon pour l'introduction un peu longue, mais est-ce que ces écoles juridiques ont encore une existence aujourd'hui? Est-ce que c'est encore une, est-ce que ça structure encore quelque chose dans l'islam, en général et en particulier en
Oui.
France?
Oui. Non, alors historiquement, ça a eu une très grande importance. Effectivement, chaque école juridique était articulée sur une véritable théologie. Donc, les Hanéfites, par exemple, acceptaient un rôle important comment dire, du jugement personnel du juge. Donc, la raison était tout à fait valorisée et le juge, s'il y avait des cas qui n'étaient pas traités dans le Coran ou dans la tradition, avait liberté en quelque sorte de donner son avis. Alors qu'il y avait d'autres écoles qui étaient au contraire beaucoup plus réservées quant à ce jugement personnel, qui disaient il faut absolument faire recours à un hadith ou alors comme les Hanbalites, donc se passer même de toute espèce de jugement. Personnel, ce qui est impraticable, évidemment. C'est pour ça que l'école de droit hanbalite n'est pratiquée que par une infime partie des musulmans. Mais ce qui s'est passé historiquement, c'est que ces différentes écoles, qui ont joué un rôle très très important, disons, au 4e, 5e siècle, ont abouti à créer des systèmes clos, ce qui fait que même l'école hanafite au 4e, 5e siècle a donné toutes les réponses à toutes les questions qui se posaient, enfin pas toutes, mais en disant en gros. Et donc, il est devenu à son tour un système clos. Et donc, les juges hanafis disaient, mais comme Abu Hanifa a dit cela, ben, il finissait par avoir une tradition scolastique. Oui,
De droit, de droit fermé, d'une certaine
voilà,
manière.
c'est
Ouais.
ça. Et au fond, les écoles ne se distinguent plus tellement les unes des autres. Et à l'heure actuelle, elles se distinguent encore moins parce que le droit, je sais pas, commercial, fiscal, que sais-je, maintenant est devenu un droit européen dans la plupart des pays. Et les seules différences, c'est plutôt dans le droit de la famille. Et les différences sont finalement tellement imperceptibles qu'il y a tout un mouvement pour unifier tout ou gommer même carrément les écoles de droit.
D'accord. Alors, on a eu deux intervenants sur la finance islamique.
Oui.
Donc, tu connais peut-être Kader Merbou
Oui.
et Anouar. Qui disaient que quand même, eux, dans leur pratique de finance islamique, il y avait quand même par pays, par État, pour le coup, par État-nation, maintenant, ils retrouvaient des différences, ils devaient s'adapter, produire des jurisprudences différentes,
Oui.
etc.
Ah ben, il y a des pays dans lesquels le droit islamique est pris très au sérieux, bien sûr. Bien
Et
sûr.
donc, il y a
Là,
une
ça.
production de droit qui se fait parce qu'il y a des nouveaux trucs qui arrivent
Oui.
sur le plan
Ah
financier.
oui. Mais ça, alors tout ce qui est financier, c'est un domaine vraiment extrêmement scabreux parce que le Coran parle uniquement de l'interdiction de l'usure. Mais qu'est-ce que l'usure? Que veut dire l'usure? Alors si on traduit prêt à intérêt, évidemment, ça peut aller assez loin.
D'accord, merci. Donc l'aspect, le fait que en France, c'est plutôt des musulmans issus du monde malikite,
Tout à fait, oui.
ça n'a pas, ça a plus grande importance en réalité aujourd'hui.
Que je sache, non? Bah non, surtout qu'ils sont obligés d'appliquer la loi française.
Voilà, ouais. Est-ce que, enfin, moi, ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est que de toute façon, pour le musulman, l'autorité, ça reste l'État. N'importe comment. À
Voilà,
partir
c'est
du moment où
ça.
la loi est fixée par
C'est ça.
l'État, il est
C'est
soumis à
ça.
cette loi,
Il
même
y
si.
a eu un débat. Il y a eu un débat. Faut-il immigrer? C'est-à-dire au
Ah
début, au 19e siècle, il y a eu des Algériens qui ont voulu partir, au début du 20e, partir en France. Est-ce qu'on a le droit? Et il y a eu des juristes qui ont dit, avec argumentation à l'appui, en disant non, vous allez être soumis à une loi qui n'est pas musulmane, c'est un péché. Et ce n'est qu'assez récemment, finalement, que l'idée qu'on pouvait immigrer s'est affirmée. Mais ça n'a pas toujours été comme ça.
D'accord.
Il y a eu aussi, à l'époque où les Autrichiens ont conquis la Bosnie-Herzégovine, les musulmans bosniaques ont écrit à des muftis à Istanbul leur demandant qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut quitter la Bosnie ou pas? Et les muftis ont dit, mais est-ce que les Autrichiens vous empêchent de pratiquer votre religion? Alors ils ont dit, ben non, on peut toujours prier, jeûner. Et ils ont dit à Istanbul, ben, alors dans ce cas,
Restons.
restez.
Ça explique une partie de. Ça peut. Est-ce que ça pourrait expliquer une partie du lien que gardent certains musulmans avec le pays d'origine? Ou de la volonté de pays d'origine de garder, plutôt dans ce sens-là d'ailleurs, de certains pays d'origine, en particulier l'Algérie,
Peut-être, oui.
de garder un lien consulaire organique fort avec leurs ressortissants
Oui. Non, ça,
vivant en
je
France.
sais pas si la
J'irai
religion
pas
joue un rôle,
jusque-là.
non.
Ouais.
Vous avez dit tout à l'heure, t'allais dire
Non,
non,
non, mais je
vous
vais
avez
dire
dit tout
après.
à l'heure qu'il existait un mouvement qui est destiné à, qui voulait gommer les différentes écoles juridiques.
Oui.
Comment il s'appelle ce mouvement?
Il n'a pas de nom, mais simplement il y a des idéologues qui ont écrit, enfin je pense à un théologien syrien, Bourdi, qui a été assassiné depuis et qui a écrit tout un livre pour montrer qu'on pouvait très bien, il valait mieux pour tout le monde, réunir toutes les doctrines de droit en une seule.
Vous pourriez me préciser en termes de nombre de musulmans que représentent les sunnites, les chiites le soufisme, qu'est-ce que ça représente dans
Ah.
de manière un peu
Oui.
juste pour avoir
Oui.
une idée?
Disons, si on considère que les musulmans sont, je crois, 1 200 000, de 200 millions, on peut considérer, alors on n'a pas de données extrêmement précises, mais que les sunnites constituent 80-85% des musulmans. Donc c'est une grosse majorité. Le reste étant occupé principalement par les chiites, donc, qui sont quand même bien nombreux en Iran, mais aussi au Pakistan, en Afghanistan, en Irak, au Liban, enfin bon. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de sunnites qui se convertissent au chiisme, à telle enseigne que ça devient un problème politique et qu'il y a des lois anti-chiites en Égypte, au Maroc. Bref. Et puis alors, il y a une poussière de petits courants. De petits courants chiites, les Ismaéliens, les Druzes, les Alaouites,
En Inde
les
aussi,
Ahmadis, et en Inde, il y a les Ahmadis.
oui.
Donc, au total, ça fait quand même pas mal de monde.
Et les soufis,
Et
alors, c'est la
Alors,
question
les
difficile,
soufis,
hein.
oui, non, c'est-à-dire que les soufis sont sunnites, hein, ils ne sont
Ah
pas à
voilà, sont
l'extérieur.
d'accord.
Ils ne sont pas à l'extérieur du sunnisme, ils sont tous en majorité sunnites. Et alors, comment évaluer leur importance au sein du sunnisme? Ça dépend beaucoup des pays. Par exemple, au Sénégal ou en Tchétchénie, plus de la majorité de la population est affiliée à une confrérie. Ça ne veut pas dire que plus de la moitié des Sénégalais soient mystiques, mais enfin, en tout cas, ils suivent l'enseignement d'un maître, ils font allégeance, voilà, ils font allégeance à un maître soufi. Alors, dans d'autres pays comme l'Égypte, c'est le seul pays où il y a des statistiques. On a pu voir en Égypte que 10% des hommes égyptiens étaient affiliés à une confrérie. Ce qui est énorme, parce que 10% de la population, sur une population de près de 100 millions.
On dit les soufis ou les soufistes, les soufis?
Soufi,
Soufis.
oui.
Ça vient de quoi d'ailleurs comme mot,
C'est
soufis?
la laine, parce qu'ils s'habillaient
Ah oui,
d'une
c'est
bure en
Ah
laine très
oui, très
grossière.
grossière.
Voilà, alors que les gens riches s'habillent avec du coton.
Ah oui.
Ah oui. Excusez-moi de vous poser des questions un peu idiotes, mais
Non, non, non.
comment s'articule avec ce que vous nous avez expliqué des mouvements comme le salafisme, comme le tabligh aussi,
Oui,
on entend
oui.
parler quelquefois.
Alors, le terme salafiste, au fond, il vaut peut-être mieux l'éviter, parce que
D'accord.
les salafs, ce sont les pieux anciens. Donc, on désigne comme salafistes tous ceux qui veulent imiter les pieux anciens.
Ah oui.
Mais ça peut désigner des courants très, très différents. Ça peut désigner des gens simplement conservateurs
Ouais.
ou alors des courants beaucoup plus intolérants. Le tablir, c'est un courant à la fois prosélyte et apolitique qui cherche à convertir les musulmans ou les non-musulmans à l'islam avec l'idée qu'il faut surtout pratiquer d'une façon rigoureuse. L'essentiel, c'est la pratique. Mais que je sache, ils n'ont pas de visée politique au sens propre.
Et les wahhabites, ils sont sunnites.
Très sunnites.
Alors, ils sont sunnites.
D'accord. Donc, chez les chiites, il n'y a pas de soufis et de wahhabites. Ça ne relève que des sunnites, cette distinction supplémentaire.
Oui, enfin, je ne vais pas compliquer les choses. En fait, il y a des chiites qui sont soufis aussi, mais
pas beaucoup. On peut oublier, c'est pas...
Non, c'est-à-dire qu'il y a une mystique, il y a une mystique dans le chiisme aussi qui est très forte. Mais bon, elle s'exprime un peu différemment, puisque le contact avec Dieu a lieu par l'intermédiaire de l'imam. Voilà. Alors les wahhabites, par contre, c'est un mouvement qui est né au XVIIIe siècle et qui, en Arabie donc, saoudite, qui a conquis le pouvoir avec l'aide de la famille des Saouds, précisément. Et le principe, enfin, le fondement de du wahhabisme, c'est donc le refus total de toute interprétation du Coran. Hein, donc c'est le refus du soufisme, avec l'idée que les soufis sont des idolâtres, parce que les soufis vénèrent notamment leur maître, le tombeau de leur maître. Et c'est vrai qu'il y a des pèlerinages immenses hein, en Égypte, au Maroc, en Irak, autour des tombeaux des saints. Eux, ils considèrent ça véritablement comme une idolâtrie. Et ce n'est pas simplement de la théologie, je le répète, c'est vraiment parce que il y a une autre vision de l'homme. Pour le wahhabisme, l'homme, aussi paradoxal que ça peut paraître, est coupé du surnaturel. Dieu est complètement transcendant, on n'a au fond pas de rapport avec lui. Il y a quelque chose d'agnostique dans le wahhabisme, c'est-à-dire que tout ce qu'on connaît de Dieu, c'est le Coran. C'est le Coran. Donc tous les savants du Coran ont le droit de parler et de décider.
Mais donc ils ne prient pas, ils ne
s'adressent pas à Dieu. C'est sûr que si. Mais pour eux, la prière, c'est, ils prient parce que Dieu demande de prier.
Mais ce n'est pas un contact avec Dieu.
Voilà, c'est ça. Ou en tout cas, peut-être que Dieu agrée, mais personne ne peut se dire inspiré par Dieu. Il n'y a pas de dimension intermédiaire qui permette à l'homme de rejoindre quelque chose de la divinité.
Mais qu'est-ce que c'est prier si c'est pas parler à Dieu?
C'est la prière rituelle. Et c'est ça précisément un point important dans la piété musulmane. Les cinq prières par jour, c'est accomplir un certain nombre de gestes, accompagnés d'un certain nombre de formules très précises, toujours les mêmes. Donc, bien sûr, il est conseillé.
Pour plaire à Dieu.
Voilà, exactement. Pour plaire à Dieu, mais pas du tout pour lui parler. Alors, d'accord. Par ailleurs, il y a un autre terme. Donc, la salat, c'est la prière rituelle. Il y a un autre terme, dora, qui signifie la prière spontanée. Donc, par ailleurs, dans le privé, chaque croyant peut invoquer Dieu, peut lui adresser une prière personnelle. Mais ça, c'est pas obligatoire. C'est entièrement à la discrétion de chacun.
D'accord.
Mais là, la prière rituelle, c'est extérieurement accomplir les gestes. Et si on n'accomplit pas les bons gestes, tourner vers la Mecque, en état de pureté physique, rituelle, etc., la prière n'est pas valable. Il faut prier la prière du matin avant le lever du soleil, et si on prie et que le soleil est en train de se lever, la prière n'est pas valide. Donc c'est des points de droit extrêmement précis. C'est pour ça que c'est pas du tout... Oui.
Une question pas du tout sur ce sujet-là. Cette diversité religieuse, elle recoupe des diversités géographiques.
Bien sûr.
Et qu'est-ce qui a prévalu dans cette répartition géographique? C'est l'histoire, les chiites finalement se retrouvent tous dans l'ancienne Perse, les soufis beaucoup en Afrique.
Pas tous.
Qu'est-ce qui a conduit à cette diversité géographique?
Honnêtement, je trouve que la diversité idéologique est plus grande que la diversité géographique. Il est tout à fait étonnant de voir que l'islam, je ne sais pas, en Malaisie par exemple, est quand même... C'est les mêmes rites, hein, c'est absolument les mêmes rites, les mêmes prières, c'est le même Coran. Il y a beaucoup moins de diversité au sein de l'islam qu'au sein du christianisme, en particulier du catholicisme, même si il n'y a pas d'église. Et ça, c'est quand même important. Alors, à l'intérieur de chaque société, mettons, je parle en Malaisie, ben, il y a des soufis. Il y a des intégristes, il y a des rationalistes, etc., qui peuvent être très violemment opposés les uns aux autres. Mais Je n'ai pas senti au cours de mes voyages qu'il y ait une telle différence culturelle. Là, je me souviens avoir donné des cours à l'université Beida à Pékin, et les jeunes musulmans chinois qui venaient, on parlait dans un arabe un peu pidgin, mais et ils avaient vraiment les mêmes pratiques, les mêmes, exactement comme les soufis des autres pays.
Il y a quand même des zones chiites, à majorité chiite, oui. Et des zones à majorité sunnite. Donc c'était peut-être ça la question. Oui,
tout à fait. Alors ça, par contre, historiquement, il est clair que l'Irak, le sud de l'Irak, a été depuis l'époque de Ali une zone chiite. Ça n'a pas arrêté sans interruption.
C'est lié aux conquêtes de l'époque, en fait, oui. À l'expansion, oui. Des États.
Oui, et puis alors peut-être aussi hein, des racines encore plus profondes. L'Irak était un pays où il y avait énormément de sectes gnostiques, chrétiennes, qui... Enfin, mon collègue Amir Mouazi fait des recherches passionnantes pour montrer qu'il y a visiblement des gens qui ont considéré Ali, qui avait conquis, qui avait mis sa capitale en Irak, comme le Christ revenant à la fin des temps. Donc, il y a eu quelque chose comme ça. Donc, ils ont l'idée de considérer les imams chiites comme des êtres pratiquement divins, a peut-être sa source là, dans cet Irak-là. Alors en Iran, ça, le schisme a prévalu, mais quand même il a prévalu assez tardivement, au XVIe siècle, et par la force, parce que ce sont les rois iraniens qui ont véritablement obligé la majorité des Iraniens à adapter le schisme.
C'est par opposition turque à ce moment-là, c'est pour marquer quelque
notamment,
chose, c'est ça, hein?
Tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais. Tout à fait.
En fait, à vous écouter quand même... entre rationalisme et littéralisme, le littéralisme a quand même occupé une bonne partie du terrain.
Absolument. 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 Et je dois dire, sans vouloir porter de jugement sur la piété des musulmans, que la plupart des musulmans prient le Coran véritablement comme un texte sacré, mais sans chercher à l'expliquer de façon exégétique, moderne, sans chercher à y trouver des contextes historiques particuliers, un peu comme on lirait le psautier en se laissant bercer en quelque sorte par le texte, et que l'exégèse moderne du Coran existe. Hein, il y a des intellectuels musulmans qui réfléchissent là-dessus sur de façon historico-critique, mais elle est quand même bien marginale.
Dans l'histoire que vous nous avez dressée, vous n'avez jamais parlé de la rédaction du Coran.
Non, effectivement, comme je savais que...
il y a eu quelque chose de...
Parce que, bon, c'est quand même la pierre angulaire de toute cette religion. Or, c'est un texte qui a été écrit dans des circonstances un peu particulières.
Oui.
Enfin, je ne sais pas, excusez-moi de dire ça, mais c'est sans doute
oui.
Et donc... s'accrocher à ce texte de manière aussi forte.
Oui.
Après avoir quand même épuré des milliers, donc on peut imaginer quelle est la validité des autres, puisqu'on va découvrir des milliers de mots.
C'est ça. Alors il y a certainement des
hadiths. On peut contrefaire aussi la chaîne de transmission.
C'est ça. Parce que, donc, il y a certainement des hadiths qui sont vrais. Ça pour la mémoire de la vie du prophète a été gardée. Mais comme le faisait remarquer Goldsier, un savant hongrois qui était le premier pionnier dans ces études-là, il a dit je ne dis pas que tous les hadiths sont faux. Je dis que nous ne pouvons pas affirmer qu'aucun d'entre eux soit vrai. Il n'y a aucun document écrit de l'époque, aucun. Et donc là, il y a une fragilité dans le dogme sunnite et qui rend justement les sunnites assez, assez agressifs. Et qui n'aiment pas donc que l'on parle de ces nouvelles recherches qui trouvent que dans le Coran, il y a une sorte de métatexte en syriaque qui apparaît parfois, qui affleure... Par exemple, il y a une sourate qu'on récite souvent maintenant, parce qu'on est en ramadan, sur la nuit du destin, qui est meilleure que mille nuits, les anges y descendent. On y trouve derrière un hymne à la nuit de Noël, donc, qui est meilleure que toutes les nuits, et les anges qui descendent, comme le disent les anges. Donc, il se peut qu'il y ait eu donc,
des porosités,
voilà,
des héritages en tout cas.
Oui, c'est ça, de liturgie.
Sur le soufisme, il naît au 12e.
Alors, il naît au au 7e, 8e siècle, mais de façon individuelle. D'accord. Et alors, il devient progressivement un mouvement social, et au 12e, 13e siècle, c'est là où il émerge, alors, de façon très visible, avec des couvents. Avec des...
Est-ce que, un peu comme la même question de Franck, avec quel frottement individuel la science moderne ou les recherches actuelles diraient qu'il s'est produit, enfin, est-ce que c'est un jaillissement naturel, je dirais, de la spiritualité coranique, oui. Même si on met des guillemets, mais quand même, ou alors il y a un frottement avec des sectes chrétiennes également, il y a...
Ben, finalement, quand on, il me semble, enfin c'est pas moi qui l'ai inventé, il y a des grands orientalistes comme Massillon qui le pensent aussi, que le soufisme est vraiment né à l'intérieur de l'islam, d'accord. Parce que le Coran développe un discours en disant Dieu est absolument tout puissant, tout vient de Dieu. Non seulement Dieu a tout créé, mais à chaque fraction de seconde, Dieu maintient tout à l'existence. C'est-à-dire, si on va au bout de cette sensibilité-là, on aboutit à la conclusion que Dieu seul existe au c'est sens ça. Propre.
Que l'homme n'a aucune liberté.
Et que l'homme, voilà, et que l'homme n'a pas de consistance. C'est qu'il l'homme a une existence relative à Dieu. Et donc, dire comme les soufis que finalement, c'est comment dire, on s'unit à l'union à Dieu, à Dieu, à lieu, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est qu'une ombre, on n'est que le reflet dans un miroir. C'est plutôt l'image qu'ils utilisent. L'homme... le reflet d'une image divine dans un miroir. Mais il n'y a pas l'idée que la personne humaine elle-même puisse être divine, ce que suggère la spiritualité chrétienne avec l'idée que l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu, et que donc il n'est pas lié à cette ressemblance. C'est pour ça qu'entre les deux mystiques, il y a quand même...
Ah oui, il y a un fossé.
Il y a un fossé, parce que la mystique musulmane, le soufisme est une mystique de l'anéantissement de l'homme en Dieu.
Sur le salafisme, vous avez été très vite, vous l'aviez pas cité, et vous avez été très vite dans l'explication à François en disant que c'est quelque chose de très diffus et polymorphe. Oui. Du coup, quand en France, pour lutter contre la radicalisation, on essaye de balayer le salafisme, pour vous, c'est une aberration. Enfin, c'est un mauvais chemin, c'est un signe d'incompréhension.
C'est un mauvais terme, en tout cas. Le terme, on ne sait pas très bien ce qu'il recouvre. Et on voit notamment qu'il y a beaucoup de gens qui se disent salafistes, qui sont de très braves citoyens, complètement paisibles, mais qui sont très pratiquants chez eux et qui insistent pour faire toutes leurs ablutions, leurs prières et tout ça, et qui sont très rigoureux. Et c'est dommage que souvent on confonde ces gens très pratiquants avec des personnes, disons, plus radicales, alors qu'il n'y a pas de rapport. Les personnes très radicales peuvent être mauvais pratiquants. Hein,
Et les musulmans donc, wahhabites, ce sont des fondamentalistes tous
Oui. Ah, si on est wahhabite, c'est cela, ça veut dire ça. Donc,
ça alors il faudrait plus peut-être
et c'est l'idée,
prendre ce terme-là.
Oui. C'est ça. C'est-à-dire c'est l'idée que non seulement le droit musulman doit être appliqué dans toute sa rigueur, mais il faut l'imposer aux autres, parce que c'est là, au fond. La question, si chacun pratique sa religion dans son coin sans gêner personne, il n'y a absolument aucun problème. Mais c'est que ces courants-là, fondamentalistes, veulent imposer à toute la société la charia.
Et c'est des courants qui sont nés d'une volonté de pouvoir politique, en fait, au départ.
Tout à fait.
Ça ne s'appuie pas sur... finalement, l'aspect mystique ou théologique n'a pas d'importance.
Non, et il s'appuie sur des hadiths où le prophète aurait dit « J'ai reçu l'ordre... » De combattre jusqu'à ce que donc, toute la terre proclame qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Mohammed est son prophète. Donc il y a une espèce d'exigence morale de convertir non seulement la société musulmane, mais les autres aussi. Dans le cas du wahhabisme. Donc. Et alors, le wahhabisme militant et la doctrine séoudienne, c'est la même. Alors, on respecte les séoudiens à cause de leur richesse et pour toutes sortes d'intérêts financiers, mais leur idéologie est absolument d'une intolérance tout à fait claire et tout à fait honnête, d'ailleurs, parce qu'ils ne s'en cachent pas. Ils l'ont toujours dit.
Et il me semble, tu me corrigeras, mais au début de Wahhab, il y a une réaction assez forte des savants sunnites, des oulémas contre Wahhab. Oui, il est question même de l'excommuner à un moment, je crois que
c'est. Oui, non, c'est vrai qu'on voyait bien qu'il allait beaucoup trop loin. Il allait beaucoup trop loin. Au XVIIIe siècle, à l'époque où Ibn Abd al-Wahhab a commencé à diffuser sa doctrine, en Égypte, les trois quarts des professeurs al-Azhar appartenaient à des ordres soufis. C'est-à-dire que le soufisme était vraiment, vraiment dominant à l'époque. Voilà. Et donc, bon, il y a une lutte. Et maintenant, il faut reconnaître que les Wahhabites, c'est eux qui ont plutôt le dessus.
Ils auraient pu l'excommunier ? Non, parce qu'il n'avait pas le. Il ne sortait pas suffisamment.
L'excommunication, qui excommunique qui.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
Il n'y a pas d'instance. Ouais, ce qui s'est passé, par exemple, pour les Baha'i. Le fondateur des Baha'i a dit bon, Mohammed était le dernier des prophètes, d'accord, mais maintenant, l'humanité est devenue mûre, on n'a plus besoin de prophétie, on rentre dans une nouvelle ère que j'inaugure moi. Et donc, bien qu'il vienne de l'islam, donc. Al-Azhar a déclaré qu'il était mécréant, ils ne sont plus musulmans. Puis, telle université pakistanaise a déclaré qu'il n'était plus musulman. Il y a eu comme ça une dizaine de grandes universités, de grands mouftis qui ont déclaré les Baha'is comme mécréants. Et maintenant, il est admis qu'ils sont, ils sont des apostats.
On aurait pu avoir la même chose avec les Wahhabites. Sauf qu'en réalité, ils ne sortent pas suffisamment du credo initial.
Si on comprend bien, parce que vous l'avez dit aussi dans le cours de votre discours, là, les universités jouent un rôle très important. C'est elles qui décident finalement.
C'est le savant en sciences religieuses qui est le plus autorisé à parler. Et donc, les universités en sciences religieuses, c'est elles qui peuvent se prononcer le mieux. Maintenant, Al-Azhar est devenu une bien pauvre institution parce qu'ils ne produisent plus grand-chose.
Ah bon,
tu connais, puisque tu as enseigné. Qu'est-ce que tu as enseigné là-bas déjà, tu me disais?
Oh ben, j'ai été donner quelques conférences. Hein,
mais... Et c'était sur quoi
C'était sur le soufisme, simplement. C'est très conventionnel, très convenu, très. On m'a dit, oui, vous pouvez parler, comme... mais enfin quand même. Il ne faut pas que ce que vous dites apporte le doute à nos étudiants. Qu'est-ce qui nous reste?
C'est un peu ennuyeux.
Qu'est-ce qui nous reste?
C'est un peu ce que je t'ai dit quand tu es venu ici aussi. Hein.
Et les autres universités, alors, qui ont l'autorité en ce moment, sont lesquelles?
Bon, vous avez la Karawine à Fès, la Zaytouna à Tunis. Alors, Mais c'est un prestige qui est quand même largement surfait, parce que sans vouloir être méchant, il y a quand même la production sunnite, la sunnite vraiment dans le sens du traditionnel, s'est largement déplacée dans les pays du Golfe. Le Qatar, les Émirats, c'est là où ils font venir les professeurs de tous les pays islamiques les plus brillants.
Donc c'est Riyad, c'est...
Riyad, ils n'ont pas beaucoup de liberté à Riyad, mais dans les pays du Golfe, à Qatar et à Abu Dhabi, là...
C'est là que c'est devenu un peu le centre.
Voilà, c'est là où ils publient, c'est là où ils ont tout le...
Il n'y a pas de renouveau du courant rationaliste?
Si, il y a même beaucoup d'auteurs, souvent très, très audacieux, qui parlent, mais leur audience est vraiment, vraiment limitée.
Vraiment en France limitée. Il y a un courant rationaliste parmi les musulmans.
Enfin, ça a été mon directeur de thèse, Mohamed Harkoun, qui était quelqu'un de tout à fait. Ouais. On ne peut plus rationnel. On ne peut comprendre l'islam qu'au travers des sciences sociales. Ouais. Donc il allait jusqu'à.
On pourrait imaginer que, justement, maintenant que l'islam s'est implanté en Europe, le terme courant rationaliste. Il pourrait lui-même être une version plus européenne, touchée par ce courant rationaliste aussi.
Pour le moment, la majorité des musulmans français ne s'intéressent pas beaucoup au débat théologique et à l'exégèse, des choses comme ça. Pour le moment. Maintenant, il y a quand même des maisons d'édition, il y a quand même un lectorat qui est en train de se développer.
Via le Bourak, par exemple
Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ce qu'ils publient, c'est quand même parfois des bonnes choses. Mais simplement, il y a un phénomène dans le monde sunnite qui fait que pour avoir de l'autorité, il faut avoir un certain charisme. Ça ne se désigne pas de cette façon-là. C'est curieux qu'il y a des personnalités qui qui ont un pouvoir, une autorité ou pas. Il y a eu un professeur d'origine indo-pakistanaise, Hamidullah, qui enseignait à la mosquée de Paris, et il avait énormément d'autorité. Pourquoi lui? Pourquoi pas d'autres?
Donc c'est le savoir, mais aussi la capacité à le...
À le transmettre, voilà, c'est ça. La respectabilité, beaucoup.
Beaucoup. Mais à part les professeurs, il y a aussi les imams.
Oui, mais en fait, un imam ne doit pas être forcément quelqu'un de lettré. Dans un quartier, on peut très bien dire, ben, l'épicier du coin est quelqu'un de respectable, il connaît le Coran, il peut diriger la prière, et dans ce cas, c'est lui qui devient imam. Mais ce n'est pas nécessairement lié à une compétence. C'est préférable, bien sûr, dans la plupart des pays musulmans. C'est des gens qui ont une certaine formation.
Donc c'est difficile de leur faire porter, enfin, qu'ils portent un discours rationaliste. C'est
pas prévu dans leur fonction, disons. Mais ceux, s'ils donnent des sermons dans la prière des vendredis, donc il y a un sermon obligatoirement à la prière de nuit, eh bien, c'est sûr qu'il est, il est important de s'assurer qu'ils aient une certaine formation à la société dans laquelle ils vivent, société française, et que... Parce que sinon, bien souvent, le sermon du vendredi, c'est une répercussion de sorte de manuel de sermon tout fait, édité au Maroc ou en Algérie, selon les cas, et c'est pas... ça ne nous voit pas spécialement. C'est pas forcément toxique, mais
c'est... Oui, c'est ça, c'est pas très...
Mohamed Bajrafi, par exemple, je pense qu'il est assez dans une approche rationaliste.
Oui, tout à fait.
Ah oui, ça,
tout à fait.
Ça, non, c'est clair.
Une relecture de...
Voilà, ça, c'est clair.
Intelligente du...
Voilà, le texte, j'avais apporté ce livre, Les nouveaux acteurs de l'islam.
Ah bah c'est de la Bénédictine.
Et Bajrafi, il y est.
D'accord.
Est Donc c'est le cas de, justement, de personnes tout à fait ouvertes. Alors,
je vois que vous avez écrit une petite histoire de l'islam.
Oui,
merci.
Oui, c'est ça. C'était, on nous a demandé ça en 92 pages.
Merci.
Dire l'essentiel.
Est-ce que tu as quelque chose sur un précis des contenus de la foi de l'islam aussi qui pourrait... Parce que ça, c'est sur l'histoire de l'islam.
Non, non, le titre est trompeur.
En fait, c'est aussi sur la
c'est surtout les contenus.
Ah, très bien.
Simplement, c'est la collection.
Ça a l'air bien, ça. Ouais.
C'est la collection.
Ça existe toujours, ça? Parce qu'on dit que ça a été réédité par le Nouvel Observatoire en 2008.
Effectivement.
Ça veut dire
qu'on peut... Ça existe toujours. Oui, on peut... Alors, je ne sais pas... Mais
on l'a référencé, bien sûr.
C'est toute une collection, petite histoire de christianisme, petite histoire de protestantisme, etc. Mais en fait, ce n'est pas forcément de l'histoire. C'est même
les doctrines faites de la
voilà,
foi.
En fait, voilà, pour celui-ci, en tout cas, c'est principalement ça.
Bon. Un immense merci.
Ouais, avec plaisir. Avec plaisir.
Comment, ah oui, dernière clarté. Question, alors c'est une question complètement idiote.
Non, t'as dépassé ton quota.
Non, comment on écrit Hoffman?
Pardon?
Parce que vous avez parlé d'un calife qui s'appelait
Hotman.
Ah oui, c'est ce qui commence. Hein?
Hoffman, c'est plutôt alsacien.
On peut l'écrire O-T-H-M-A-N. Hotman.
O-T-H-M-A-N.
Hoffman.
Excusez-moi.
Comme les contes.
C'est ça, les contes, ça fait mal.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Pierre.
Merci, bravo.
Ouais, bravo, vraiment.